Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Tsiganitsky, le directeur général France de Freena, l'application européenne concurrente d'Uber, réunissant VTC, trottinettes et scooters en libre-service et visant le zéro carbone à horizon 2030.
Enchantée Alice.
Je suis ravie de te recevoir dans l'Empreinte. En plus, c'est vraiment une application dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est un des sujets, la mobilité et le rapport du GIEC en parlait très justement, c'est un sujet sur lequel il fallait vraiment agir et agir vite. Freena, alors tu vas me dire comment ça se prononce
Freena, tu l'as très bien dit, comme mon nom de famille d'ailleurs, tu l'as très bien dit aussi.
Fait ça s'ancre, on va dire, dans les solutions, dans le panel de solutions
D'abord, effectivement, les transports, c'est un des premiers postes de polluants. Je crois que pour la France, c'est 30% des émissions carbone à Paris. Les voitures, c'est 65% des émissions. Et effectivement, c'est un gros sujet, la mobilité dans Paris, pollution sonore, pollution de l'air, l'espace aussi dans les villes. On pourra reparler de quelques chiffres plus tard, mais il y a un vrai combat contre les voitures, contre l'autosolisme. Et Freenow, même si c'était une application traditionnelle de VTC, on pense qu'on a un rôle énorme à jouer là-dedans. Comme objectif, comme tu l'as dit, d'être net zéro d'ici 2030, de réduire de 50% nos émissions d'ici 3 ans, 2025. Et on a plein d'outils pour le faire.
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu vas réduire sans compenser. Parce que la compensation, c'est quand même pas une solution.
On fait la compensation, mais j'en parle même pas compensation. Et puis en plus, on fait, comme souvent les programmes, c'est toujours un paradoxe d'ailleurs, mais les programmes de compensation en Europe, ou le plus près de nos zones d'opération, sont souvent les plus chers. Donc on a tendance à faire des compensations dans d'autres pays plus lointains. Donc on le fait, mais c'est pas du tout une priorité. On a trois piliers pour y arriver, pour en tout cas essayer d'y arriver. Le premier, c'est d'aider les chauffeurs à convertir d'un véhicule thermique vers de l'électrique. En plus, c'est beaucoup plus confortable pour les chauffeurs, c'est plus économique sur le long terme, même si le coût d'achat est un petit peu plus prohibitif. Et donc, pour aider les chauffeurs, ça c'est le premier pilier, hein, pour aider à convertir, on va travailler avec des constructeurs automobiles pour avoir des remises, parce qu'on est présent partout en Europe, on a pas mal de chauffeurs qu'on peut connecter. On appartient accessoirement à Mercedes et BMW, donc on essaie d'apporter...
BMW qu'on a eu dans l'empreinte d'ailleurs.
Voilà, on va faire des deals avec des constructeurs pour que les chauffeurs aient des tarifs avantageux. On va aussi travailler avec des fournisseurs de bornes de recharge électrique, comme Shell, comme la RATP, qui est un hub dans le nord de Paris, comme Electra. On a nous-mêmes, au sein de la joint venture BMW et Mercedes, une société sœur qui s'appelle Charge Now.
Et non Change Now.
tout cet écosystème, on va permettre aux chauffeurs, même si, encore une fois, c'est insuffisant, d'avoir accès à des bornes de recharge rapides dans des points névralgiques, par exemple sous la mairie de Paris, en plein centre de Paris. On a un partenariat avec Shell avec 30% de réduction sur le kilowattheure pour les chauffeurs Freenow pour qu'ils puissent se recharger en moins d'une heure. On a un partenariat avec Electra dans le nord de Paris, près d'Aubervilliers aussi, pour qu'ils puissent se recharger moins cher grâce à ce partenariat. Donc, ce sont des petites choses, mais qui vont aller en s'amplifiant.
Question pratique, alors, parce que moi, je n'ai pas de voiture, mais j'avais entendu ça, je crois que c'est ma maman d'ailleurs qui m'en avait parlé. Apparemment, on ne peut pas recharger toutes les voitures électriques sur les mêmes bornes de recharge. En fait, apparemment,
il y a deux ou trois prises différentes, donc c'est un petit peu complexe.
C'est pas de votre faute, mais il faut simplifier tout ça.
Ça va venir, c'est en cours. Il y a un impétus. En fait, on a vu beaucoup de ventes ces derniers temps de véhicules électriques. Ouais. L'infrastructure n'a pas suivi, mais ça finit toujours par suivre.
De toute façon, la pression du marché est là et la pression de l'État.
Exactement.
Enfin, là, il n'a plus de choix. Donc,
Pour vous donner une idée, un autre chiffre, je revérifie avant de venir. En mai l'an dernier, on avait 70%, 69% de nos véhicules chauffeurs. On a, j'ai oublié de préciser qu'on a 25 000 chauffeurs qui ont notre app en France. Sur ces 25 000 chauffeurs, il y en avait 70% qui avaient un véhicule thermique, pur thermique. souvent du diesel. Là, en avril, on est à moins de 40%. En un an, ouais. c'est hallucinant, la transition. Donc, ça va continuer. On va travailler, on va faire du lobby auprès des différents ministères pour proposer des aides pour les professionnels, pas simplement les taxis, mais aussi chauffeurs VTC. Et puis, on va faire en sorte de différencier aussi dans notre app le tarif entre une gamme électrique et les autres.
Donc, en moins cher pour l'électrique.
En moins cher pour l'électrique.
Ça, donc, c'est génial. Et nous, en plus cher parce qu'on prend un truc green, quoi.
Bah exactement.
Mais oui,
Donc, ça, c'est un premier volet. Le deuxième, c'est de changer de proposer plutôt pour les trajets les plus courts d'autres options que le VTC. On va proposer, entre autres... Et moins polluant. Tu l'évoquais avant, trottinette, scooter, vélo. Tu n'as pas parlé de location de voiture, avec ShareNow. Donc, on va proposer pour ces trajets les plus courts, pour donner une idée, 40% de nos courses à nous, chez FreeNow, c'est moins de 5 km. Et donc, sur ces trajets les plus courts, bah, nous, on va proposer d'autres alternatives. Depuis un an, on a intégré les partenariats de TIR, de DOT, de VOI. D'autres opérateurs aussi le font. Mais on voit... On voit ce shift, ce changement qui fonctionne plutôt bien. C'est plutôt sur des trajets de 2 km.
Mais ça veut dire que l'utilisateur qui a l'application, en fonction de la durée de son trajet, enfin de la distance de son trajet, va être conseillé sur son choix de mobilité ou c'est à lui, par contre, d'avoir la
bonne... On n'y est pas encore.
Et on n'y est pas encore. Tu vois, j'ai déjà ton prochain step.
Oh, exactement. Et pourquoi on n'y est pas? Parce qu'il y a un petit peu de finesse qu'il faut qu'on priorise. Alors, on a quand même 700 développeurs, donc on est bien équipés, mais on a d'autres concurrents qui sont 10 fois plus gros, donc il faut qu'on fasse des choix.
Oui, d'ailleurs, vous êtes, je ne sais pas si je l'avais précisé, que vous êtes européen et que c'est pas mal.
Non,
hein,
mais, bien sûr, européen, on paye nos taxes localement. Absolument. Et donc, ce qu'on souhaiterait proposer, c'est effectivement d'orienter le choix du passager en disant, est-ce que tu as pensé à cette option plutôt qu'un tel ou un autre? La difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas toujours capable d'identifier s'il y a des offres des parkings pour déposer les autres offres à destination.
Finalement. C'est géologue
à destination.
Et d'ailleurs, j'imagine que finalement, ce qui peut aussi convaincre l'utilisateur, ça va être le prix, parce que c'est sans doute moins cher d'utiliser une trottinette électrique ou un scooter.
Bien sûr.
Donc, plus c'est doux, moins c'est cher.
On est à 20 euros. C'est ça, en plus, sauf les véhicules électriques. Là,
oui,
pour le coup,
oui,
c'est doux, mais
oui,
en plus, il y a un chauffeur, on n'a rien à faire. Mais c'est 20 euros, à peu près, prix moyen d'une course VTC chez nous, et c'est 3-4 euros, prix course moyen. Et en fait, quand on regarde l'évolution de la mobilité pré-post-Covid, et le fait que les gens vont plus souvent au bureau maintenant, ceux qui ont un pass Navigo, quand ils payent 75 euros par mois, rapporté au nombre de courses qu'ils font, etc., bah au final, c'est bien plus avantageux de faire la transaction, d'utiliser une app comme FreeNow pour le côté
corpo. Tu vas me faire la télécharger, là, je sens.
c'est vraiment une expérience, une expérience très chouette. Et puis le troisième, pour terminer, pour garder un peu le fil de comment on va arriver à ces objectifs net zéro, c'est en travaillant toujours sur nos algos, nos algorithmes de dispatch, pour que on s'assure que ce soit systématiquement le chauffeur le plus proche qui vienne récupérer le passager, que si c'est une commande faite sur une nationale, on prenne bien en compte la direction du chauffeur pour pas qu'il fasse de gros détours, qu'on privilégie les gammes électriques, qu'on puisse proposer plus de pooling. Enfin voilà, il y a tout un tas de travail. Pardon, j'utilise pas mal de jargon là, mais...
Pooling, oui, j'avais demandé.
De rassembler peut-être des passagers, de faire en sorte...
Ah oui, comme le Uber Pool.
Comme le Uber Pool, de proposer aux chauffeurs de se rendre vraiment dans les lieux où il y a le plus de concentration de demandes pour être... En anticipant
cette demande. Et puis de lutter contre l'autosolisme, c'est ce que tu disais.
Ça, c'est notre mission.
Ça, c'est vraiment... c'est ce qu'il y a de principal. Enfin, on n'a pas besoin de se trimballer avec autant de ferraille autour de nous. C'est dingue, en fait.
En milieu urbain. Attention,
oui,
on parle bien.
Oui, non,
c'est vraiment en milieu urbain.
D'ailleurs, vous êtes où?
Alors, nous, on est présent dans 11 pays en Europe.
D'accord.
Plus de 130 villes. Et en
Mais
France.
C'est des grandes villes quand même, ces grandes métropoles.
Beaucoup. Et en France, on est présent dans 7 villes: Paris, Lyon, Nice. C'était les villes historiques, puisque j'ai oublié de préciser, mais avant, on s'appelait chauffeur privé, puis captain, puis FreeNow. Donc, au moment de chauffeur privé, Paris, Lyon et Nice étaient nos villes historiques. Et on a ouvert l'an dernier Marseille, Bordeaux, Toulouse et Lille.
Mais tu vois, c'est là que je trouve que c'est pas équitable avec les personnes qui vivent en dehors des grandes villes, qui n'ont pas accès à tout ça, quoi, finalement, et qui vont être taxées sur leur mobilité. Et c'est compliqué.
C'est vrai, c'est bah, surtout avec la crise de l'essence. Ouais.
Moi, je trouve qu'on les oublie complètement. Donc, je leur passe un petit coucou, là, et on vous oublie pas. Là, je sais qu'on parle des villes, mais enfin, faut trouver des solutions pour eux, quoi. J'ai d'autres questions, notamment, qui m'ont été posées par mes auditeurs, sur la sécurité avec les chauffeurs, parce que c'est déjà arrivé. Comment vous checkez? En fait, c'est une question qui revient souvent, j'ai l'impression, sur ces applis-là, parce que notamment les femmes.
Ouais.
Comment vous vérifiez que quelqu'un...
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, pour obtenir ses licences VTC, un chauffeur doit avoir pas mal de... Il a un examen, il doit avoir un casier judiciaire vierge, il doit avoir plus de 3 ans de permis de conduire, il y a tout un contrôle, un examen qui est fait. Donc ça permet déjà de garantir notamment le casier judiciaire vierge, c'est une espèce de pré-contrôle. Nous, on vérifie physiquement les documents pour chaque inscription de nos chauffeurs au moment de l'inscription, une fois par an. Donc on demande au chauffeur de venir, on vérifie que c'est bien le même chauffeur, la même carte. Et puis, on fait des audits réguliers, un petit peu... voilà, si on voit qu'il y a, il y a eu une remontée de la part d'un passager en disant
oui, bah,
tiens,
avis,
le chauffeur ne correspondait pas, etc. On a une équipe d'une vingtaine de personnes, dont pratiquement la moitié d'anciens chauffeurs, qui vont appeler tous les jours de la semaine, qui vont faire des appels, des contrôles. On peut demander au chauffeur de venir aussi dans nos bureaux. Donc, il y a des contrôles qui sont faits. Et s'il y a un cas grave ou si... Il y a une remontée, en tout cas, même s'il y a une présomption d'innocence, on va toujours appeler le chauffeur pour avoir sa version. Mais si on estime qu'il y a un cas suffisamment grave, on déconnecte le chauffeur tout de suite. Le temps de l'enquête.
D'accord, oui, parce qu'après, il y a une enquête.
Après, il y a une enquête. Et en fait, c'est une voie contre l'autre. Et, et on peut s'imaginer que la voix d'une femme avocate, peut-être bien sous tout rapport, vaudrait mieux qu'un chauffeur, mais absolument pas. D'ailleurs, il y avait, je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite sur les cas d'agression dans les VTC aux États-Unis, de l'un de nos concurrents préférés. Et la plupart des incidents, c'était les chauffeurs qui les subissaient, pas les passagers.
Ah ouais, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai d'ailleurs.
Bien sûr, il y a des chauffeurs qui... Il y a d'autres plateformes, notamment, qui opèrent beaucoup parmi les jeunes, beaucoup plus parmi les jeunes. Nous, on a une clientèle un peu plus... on va dire CSP+, très pro. On a 50% de nos courses qui sont plutôt professionnelles, mais d'autres plateformes qui... voilà, les chauffeurs subissent les étudiants, les beuveries
mais
le samedi soir.
D'ailleurs, on parle de mixité. Il n'y a pas beaucoup de femmes chauffeurs de VTC.
C'est vrai, il n'y en a pas
franchement, j'y pense parce que c'est... Moi, j'ai jamais vu une femme qui m'a conduit.
Alors, moi,
j'en prends pas des masses, hein, mais
en tout cas, pas chez nous, a priori. Mais
non, pas encore. Mais j'ai testé. Mais surtout si vous êtes électrique, voilà. Mais c'est vrai que finalement, pourquoi? Parce qu'elles ont peur, en fait, peut-être aussi.
Je pense que c'est comme les chauffeurs de taxi, comme les chauffeurs de camion. Je sais pas si
on peut pas redonner envie aux femmes de faire ça. Comment?
Alors, on aimerait beaucoup, on met toujours en avant, mais bon, c'est assez...
tu vois, il y a encore des stéréotypes de la bagnole, c'est les hommes, et c'est dingue,
c'est,
hein?
C'est incroyable.
Et t'es optimiste ou pas? Enfin, la question est ouverte, mais c'est un sujet qui est tellement clé, là, je te la pose sincèrement, et parce que moi, j'ai l'impression qu'on cherche des solutions, qu'on tâtonne beaucoup... qu'on essaye des choses qui marchent plus ou moins et que finalement on se rend compte que bah, c'est pas forcément des alternatives très très viables, durables ou alors qu'on n'a pas toutes les solutions de l'écosystème. Est-ce que toi t'es optimiste, tu dis en fait on y arrive vraiment là?
Oui, alors ouais. Est-ce que je peux parler un peu du contexte?
Vas-y,
un peu de contexte sur l'évolution de la mobilité.
Si en plus t'es optimiste, moi ça me va.
Ah, absolument. Alors c'est ma nature, mais en particulier sur la mobilité. En gros, il y a plusieurs choses qui ont bousculé la mobilité urbaine ces 2-3 dernières années. C'est très récent. Il y a évidemment le Covid. Et le Covid, qu'est-ce qu'il a provoqué? Le Covid, il a provoqué une réduction des jours de travail au bureau, une réduction en conséquence directe des sorties nocturnes. Et puis, il y a eu l'histoire, bien sûr, du pass vaccinal, la crainte d'attraper le virus. Donc, d'une manière générale, on voit qu'entre 2019...
Une réduction de la prise des transports en commun aussi.
Bien sûr. Donc, entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu une vraie baisse significative des déplacements de la mobilité, au sens large. Donc ça, c'est un élément à considérer, et j'expliquerai pourquoi. Parce que du coup, bon, il y a plein de gens qui se sont retrouvés avec leur voiture garée dans leur parking, et finalement, ils l'utilisent déjà beaucoup moins. Deuxième élément, c'est qu'au même moment, 2018, ça commençait un petit peu, 2019, ça s'est vraiment accéléré, et puis 2020, c'était la folie, c'est qu'il y a eu une explosion de nouveaux services de mobilité. Je parle toujours de la ville, hein. Encore une fois, je ne parle pas de ville et banlieue. Donc, il y a eu d'un coup toutes ces trottinettes, on en parlait avant, tous ces vélos sans port d'attache, les scooters, CityScoot, c'était les premiers, maintenant, il y a 3-4 opérateurs. Autolib est mort à ce moment-là, dans cette période-là, mais t'as Free2Move, ShareNow, Ziti, t'en as plein qui se sont engouffrés. Donc, d'un coup, plein de nouveaux services. Troisième élément, c'est que les villes ont commencé à prendre le sujet de la mobilité à bras-le-corps. Alors, je pense qu'elles ont profité, c'était une aubaine que, bah, du coup, il y avait moins de circulation dans les villes pour refaire des travaux, refaire des voies cyclables. Il y a eu les Verts qui ont gagné les élections aussi municipales il y a un an ou deux ans, je suis un peu perdu dans le temps là. Donc, ça a mis une nouvelle impulsion pour lutter contre les voitures. Et puis, ces trois phénomènes-là, bah, du coup, on vraiment mis, je pense, un gros frein à l'usage de, ou en tout cas un sort ralentissement à l'usage des voitures personnelles.
Ah bah là, c'est un vrai calvaire pour les Parisiens. Vraiment, pour le voir, les Parisiens ne peuvent plus circuler du tout. Et en fait, le problème, c'est que pour ceux qui viennent à Paris et qui ont déjà la voiture pour monter à Paris, ils galèrent vraiment. Donc, c'est un peu une non-solution, en fait. Ça n'a pas été très bien fait. Là, je suis tout à fait...
Et il y a deux nouveaux phénomènes, c'est ça qui me rend positif. Donc y a, on sent qu'il y a, depuis 2-3 ans, il y a quelque chose qui se passe. Puis, il y a toujours les rapports du GIEC, bien sûr, qui parle de l'impact de la mobilité. On sait que c'est un des premiers secteurs.
Les flux vont continuer.
En fait, je voyais des stats je crois que c'était fourni par Carbon 4, mais en 20 ans, parmi tous les postes différents d'émissions ou les puits, que ce soit l'agriculture, l'énergie, le bâtiment, je crois qu'il n'y a que la mobilité en 20 ans qui a augmenté. Tous les autres ont quand même en 20 ans baissé leurs émissions.
De toute façon, on n'a plus de ressources sur pas mal de trucs, mais donc la mobilité, oui, ça reste.
Et en plus, la mobilité, c'est l'un des secteurs les moins chers à dépolluer par rapport à tous les autres, les moins contraignants. C'est ce que dit en tout cas le rapport du GIEC, le dernier rapport. Et donc, les deux nouveaux phénomènes là, qui me donc voilà, il y a ces trois éléments qui ont posé les bases. Il y a deux nouveaux phénomènes, je pense, qui vont accélérer l'usage d'alternatives à l'autosolisme. D'abord, il y a les entreprises qui ont commencé à revoir leur politique voyage. Plus personne ne voyageait pendant 2 ans, donc ils ont eu le temps de se poser un petit peu dessus. En plus, ils voient leur parc automobile. Il y a beaucoup d'entreprises qui payent des voitures de fonction. Ben, ils voient qu'elles sont un petit peu sous-utilisées. Pratiquement au même moment, il y a eu la loi LOM en décembre 2019 qui a proposé de mettre, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, les entreprises peuvent proposer un crédit mobilité pour.
Oui, et puis en plus, elles sont taxées, c'est-à-dire que comme elles s'engagent à être neutre carbone, ça pèse dans leur balance. Donc en fait, elles ont tout coupé. Hein. Il n'y a plus de voyages, parce qu'elles doivent être.
Tu as raison, il y a ça aussi qui accélère l'espace simplement le temps qu'elles avaient. Donc là, elles commencent à proposer plus en plus à leurs collaborateurs. Des alternatives, d'essayer de pousser vers des alternatives en disant bah, peut-être que vous pouvez avec ce crédit mobilité utiliser un peu de, je sais pas, métro, taxi, vos vélos, voilà. Et puis donc je pense que ça met un boost supplémentaire pour les individuels de vraiment réfléchir à l'intérêt de garder leur véhicule. Et puis le dernier élément qui vraiment accélère tout ça, c'est que technologiquement, maintenant, on sait se connecter les uns aux autres, tous ces acteurs de mobilité. Avant, chacun, c'était beaucoup de start-up. Hein. Donc, toutes ces start-up développaient...
Putain, un peu de la concurrence, alors que maintenant, il y a plus d'intelligence collective, j'ai l'impression,
exactement,
quand même.
Et puis, c'est aussi poussé par les États, par les municipalités,
en disant... Parce qu'en fait, ils vous subventionnent tous ensemble, en fait.
Alors, nous, on n'est pas subventionnés, oui, pour le coup,
Il y a des aides qui sont là.
En tout cas, pour les chauffeurs, ouais. pour convertir. Et puis, il y a surtout... on voit beaucoup de synergies au niveau des nœuds des gares ferroviaires. On pense que c'est complémentaire. On va prendre peut-être une trottinette pour se rendre jusqu'au métro. Après, bah, si le bureau il est loin, on va prendre un VTC en sortie de gare pour aller en banlieue. On voit toutes ces synergies-là. Et on commence à avoir des standards de langage de développement. Parce que chacun, donc, développé dans son coin avec ses propres langages, sans qu'il y ait vraiment de standardisation, comme on peut trouver, par exemple, dans l'aérien. L'aérien, c'est extrêmement standardisé. Et ça, maintenant, c'est tout nouveau. Ça fait depuis 1 ou 2 ans.
Est-ce que tu aurais des choses qu'on n'aurait pas évoquées ensemble que tu aimerais évoquer dans le podcast, ou sinon un petit mot de la fin pour nos auditeurs?
Pense que, alors, peut-être quelque chose qu'on peut évoquer, c'est parce que c'est bien une thématique RSE. Donc ouais. On a parlé d'écologie. Je pense que j'ai probablement oublié la moitié des choses.
On a parlé des femmes un peu quand même.
On a parlé des femmes. Mais je voulais parler aussi du côté social, pour ouais. puisque tu parlais des chauffeurs.
Ouais.
Et je pense que c'est un le rôle, je suis vraiment convaincu qu'on joue un rôle, nous FreeNow, mais les autres opérateurs de mobilité également, pour réduire l'autosolisme en ville. J'en suis certain. Et puis ça tombe bien, parce que c'est le transport, comme on le disait au début, c'est un des premiers postes de pollution sonore, d'espace, de l'air, etc. Mais j'aime mon métier parce qu'on a aussi un impact social. Parce que nos 25 000 chauffeurs, alors ils ne sont pas tous actifs tout le temps avec nous, en plus ils travaillent souvent avec différentes plateformes.
En plus, il y en a pas qui rechargent leur bagnole.
Exactement, et là on se parle. Ils sont, on les accompagne, du mieux qu'on peut. D'abord financièrement, bien sûr. On prend moins de commissions que nos concurrents. On va mettre en place des bonus, ça fonctionne beaucoup comme ça, où nos chauffeurs vont... En moyenne, un chauffeur va gagner entre, on va dire, 1900, 2400 euros par mois, à peu près, brut. Nous, nos chauffeurs qui sont engagés, alors qu'ils ne sont pas engagés, on ne leur demande pas de faire plus de courses que les autres, mais avec qui on travaille le mieux, ils vont gagner pratiquement 3000 euros. Et en travaillant sur plus ou moins les mêmes heures.
D'accord.
Donc on va travailler sur ces systèmes de rémunération, ça c'est un premier point. On va aussi les accompagner d'un point de vue... formation, par exemple formation comptable, ils sont intéressés par la comptabilité ou ils ont un besoin de comptabilité parce que ils sont auto-entrepreneurs, ils savent pas forcément gérer, mais on va les accompagner là-dessus, ou en anglais, ou on va les appeler, cette fameuse équipe de 20 personnes dont une dizaine d'anciens chauffeurs, on les appelle pour des sujets de sécurité, mais on les appelle aussi quand ça va bien, quand on a un super feedback.
Super.
Donc on a un driver center, un bureau pardon, pour que les chauffeurs viennent se poser, prendre un café, enfin voilà, on est vraiment très attentif à ça. Et on travaille, comme je disais, avec les syndicats, avec la mairie de Paris, avec les différents ministères du travail et des transports, pour qu'ils aient les meilleures conditions possibles. Et on pense que il y a souvent un peu cette image, tu parlais des sujets de sécurité où
ouais,
t'es...
c'est vraiment ça, moi.
Voilà, tes followers, du coup, t'as reçu une question sur le sujet, c'est un vrai sujet. Il faut que ce soit, c'est notre priorité.
Bah écoute, j'étais ravie de t'avoir dans l'empreinte.
De même.
J'ai appris plein de trucs et j'espère vraiment que ta philosophie de la mobilité est la bonne. Et comme ça m'enlève un peu d'éco-anxiété.
Écoute, l'avenir nous le dira.
Exactement. Et go pour être zéro carbone si tu y arrives. Et sinon, fais du mieux que tu peux. On a besoin d'acteurs qui s'engagent vraiment. Merci beaucoup.
Merci Alice.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.